France Info.
France Info. C'est l'info média avec Céline Bayle-Darcourt. Bonjour Céline.
Bonjour Marie.
Et un carton pour commencer. Sans surprise, Céline, les Bleus très suivi sur TF1 hier soir.
Oui, record de l'année et 9e plus gros score historique de la télévision. 19 100 000 personnes ont regardé la qualification de la France pour la finale du Mondial. Alors, c'est pas la meilleure audience pour un match de foot. La demi-finale entre la France et le Portugal dans la Coupe du Monde 2006 avait fédéré 22 200 000 téléspectateurs. Il est fort possible que la finale de dimanche établisse un nouveau record.
Et on change de chaîne, Céline. Frédéric Aziza ne sera plus à l'antenne à la rentrée sur la chaîne parlementaire.
Mais ça n'a rien à voir avec l'accusation d'agression sexuelle dont il est l'objet par l'une de ses anciennes collègues. C'est ce qu'assure le nouveau président Bertrand Delay, qui annonce l'arrêt de l'émission politique qu'animait le journaliste. À la place, il y aura un programme commun avec Public Sénat, l'autre chaîne du canal 13 de la TNT. Public Sénat qui prendra désormais en charge la matinale de 7h à 9h et LCP récupérera le 9h-11h.
RT France va déposer un recours devant le Conseil d'État.
La chaîne financée par la Russie conteste la mise en demeure du CSA prononcée fin juin. Un avertissement pour manquement à l'honnêteté, à la rigueur de l'information et à la diversité des points de vue. C'est un sujet sur la situation en Syrie qui a poussé le Conseil supérieur de l'audiovisuel à réagir. La traduction des propos d'un Syrien n'était pas conforme à ce qu'il disait réellement. Russia Today reconnaît une erreur technique de montage mais plaide la bonne foi.
On découvre aussi ce matin, Céline, le palmarès des chaînes thématiques pour le premier semestre 2018.
Et c'est TV Braise qui a été la plus regardée entre janvier et juin avec 0,7% d'audience. Elle est en tête pour le troisième semestre d'affilée. Juste derrière, à 0,6%, on trouve Paris Première, RTL 9 et Bein Sport. De son côté, la chaîne Teva revendique la première place sur les femmes de moins de 50 ans.
Et on accueille à présent notre invité, qui est le directeur adjoint de la rédaction de France Info, mais c'est sa casquette de grand reporter qui nous intéresse ce matin.
Bonjour Lucas Manger.
Bonjour.
Vous signez avec l'écrivain Emmanuel Carrère un long reportage dans la revue 21. Vous êtes parti à la recherche d'un Coran qui aurait été écrit avec le sang de Saddam Hussein et qui aurait disparu. Comment d'abord avez-vous eu connaissance de cette histoire ?
J'en ai eu connaissance à différents moments de reportage à Bagdad. J'ai été à Bagdad beaucoup depuis 2002 et j'avais entendu parler de cette histoire comme d'une rumeur. Et puis, de fil en aiguille, en interrogeant différentes personnes, j'ai compris que ce n'était pas une rumeur, même si justement c'était extrêmement difficile de prouver que ce Coran avec le sang de Saddam Hussein avait été écrit. Et j'en avais parlé à Emmanuel Carrère, qui n'a croyait absolument pas, lui, à cette histoire, qui était persuadé que c'était une légende urbaine. Mmh. Et donc, pour lui montrer que ce n'était pas une légende urbaine, je l'ai emmené à Bagdad.
Et pourquoi, justement, ce choix de mener l'enquête avec un écrivain?
Parce que c'est un choix de Patrick de Saint-Exupéry, qui était le fondateur de 21, et qui voulait, justement, un peu la confrontation de ces deux regards. Moi, d'un regard plus classique, on va dire, de reporter à Bagdad, qui connaît bien ce pays-là, et Emmanuel Carrère, qui n'avait jamais mis les pieds en Irak, et que cette légende, ce mythe intéressait. C'était la confrontation de ces deux regards qui était intéressante.
Vous êtes donc convaincu, au départ de cette enquête, que ce Coran, il existe bel et bien. Pourquoi ?
Parce que Saddam Hussein était devenu un peu fou à la fin de son règne, et surtout fou et en même temps très malin. Il voulait absolument devenir une sorte de commandeur des croyants. Après sa défaite de la guerre du Koweït en 91, il a eu besoin de redorer son image. Il y a eu différents moments, il a inscrit la shahada, la profession de foi, de sa main sur le drapeau irakien. Il a fait construire une mosquée absolument délirante, avec des minarets en forme de kalachnikov et de scud, les obus irakiens. Il était dans une sorte de délire religieux. Et donc cette histoire collait. Cette histoire du Coran de sang collait à la réalité du personnage qui était dans une sorte de folie des grandeurs, et c'est sa dernière folie en fait, celle-ci.
Sauf que c'est sacrilège d'écrire un Coran avec du sang. Alors, pour quelqu'un qui se veut un leader religieux,
oui, mais justement, c'est quand même un dictateur, et il restait un dictateur. Et son entourage religieux n'a pas osé lui dire probablement à quel point c'était sacrilège. Ils avaient tellement peur de lui. Il faut quand même se souvenir de ce qu'était la dictature de Saddam Hussein. Quiconque s'opposait à lui était immédiatement soit exécuté, soit envoyé en prison. Donc, y compris les dirigeants religieux ne voulaient absolument pas le contredire et lui dire qu'il était en train de commettre un acte complètement sacrilège. Ce qui est sacrilège, mais ce qui, du coup, inscrit ce Coran de sang dans la durée. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'une fois que le régime de Saddam tombe et que lui-même se cache, puis est jugé et tué, personne ne peut détruire ce Coran. On ne peut pas détruire un Coran. Donc, ce Coran était dans la nature quelque part, à Bagdad ou dans la région.
Quelqu'un l'a vu, ce Coran ?
Plusieurs personnes l'ont vu. Malheureusement, pas Emmanuel Carrère et moi au moment où nous y sommes allés. Un confrère du Figaro l'avait vu en 2003. Il avait été exposé très brièvement dans un musée de l'ex-zone verte de Bagdad, où on avait présenté les cadeaux de Saddam Hussein, les grands cadeaux du régime. Et donc, du coup, il a été exposé très brièvement. Il a été montré à la télévision au moment où il a été terminé. Et puis, on est parti à la recherche de ce calligraphe. Ce calligraphe existe. Celui qui a rédigé ce Coran de sang, qui a peut-être pas eu le choix. Et on est parti à sa recherche dans les rues de Bagdad et dans les mosquées et dans les écoles de calligraphie de Bagdad.
Et vous l'avez retrouvé. Alors, il n'est plus à Bagdad ?
On l'a retrouvé. Il n'est plus à Bagdad. Il vit dans un pays de la région. Il vit en Arabie Saoudite. Il ne peut plus mettre les pieds en Irak parce que, évidemment, il est menacé. Parce qu'il a écrit un Coran. Alors, pas exactement avec le sang de Saddam, avec un peu du sang de Saddam, mais ça, faut lire l'enquête de 21 pour le comprendre. Mais c'est un homme, effectivement, qui ne peut plus remettre les pieds en Irak.
Vous n'avez pas encore pu le rencontrer, mais à la fin de l'histoire, je ne vais pas évidemment tout dire, mais on sent qu'il y a une possibilité, donc peut-être un nouvel épisode.
Bien sûr, on va le rencontrer.
Un nouvel article dans 21.
Peut-être, on verra.
Ce que vous décrivez aussi dans cet article, Lucas Manger, c'est une capitale irakienne, Bagdad, qui semble, vraiment je dis, qui semble se normaliser. Vous y étiez allé 18 mois plus tôt, et en si peu de temps, la ville avait beaucoup changé.
Oui, la ville a beaucoup changé. En fait, j'ai connu Bagdad à différents moments depuis 2002, et c'est vrai que ces derniers temps, qui correspondent à la fin de la bataille de Mossoul, une fois que l'État islamique a été défait par l'armée irakienne et l'armée américaine, les choses se sont un tout petit peu calmées et l'ambiance s'est détendue. Il faut dire que Bagdad était sous la menace de l'État islamique aussi, qui était très très proche de la ville. Il y avait une très grande tension, beaucoup d'attentats. Il faut se souvenir qu'il y a encore moins de deux ans, il y avait un attentat qui faisait 350 morts dans un centre commercial de Bagdad. Il n'y a aucune ville au monde dans l'histoire de l'humanité qui a connu autant d'attentats que Bagdad.
Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, à Bagdad, on peut se promener en toute sécurité ?
Pas partout. Non. Oui, on peut se promener en toute sécurité dans certains endroits et quand on connaît des Irakiens. Mais c'est vrai qu'il y a des cafés qui ont réouvert, il y a des concerts qui ont commencé. Je suis allé avec Emmanuel Carrère à une première de cinéma, ce qui m'était jamais arrivé à Bagdad. Donc il y a un certain nombre de choses qui se sont un tout petit peu détendues.
Et Saddam Hussein, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui en Irak ?
Eh bien, c'est ça qui est intéressant dans ce parcours qu'on a fait avec Emmanuel Carrère. C'est que beaucoup de gens, finalement, tout en ayant très peur de ce Coran de sang et de ce qu'il représente, nous ont dit, et c'est le cas souvent dans ces pays du Moyen-Orient, on le voit aujourd'hui avec Bachar el-Assad, qui regrettaient Saddam Hussein. Le chaos irakien qui a duré de 2003 à aujourd'hui fait que certaines personnes, évidemment, rejettent la personnalité complètement folle de ce dictateur, mais ne rejettent pas ce qu'il représentait en termes de direction du pouvoir, de direction y compris de toutes les différentes factions religieuses qui occupent ce pays. C'est ça qui est aujourd'hui encore un problème. Ce sont les guerres entre sunnites et chiites, et beaucoup des Irakiens disent oui, mais sous Saddam, ça n'existait pas.
C'était mieux avant. Merci beaucoup, Lucas Manger.
Merci à vous.
Le Coran de sang, votre reportage coécrit avec Emmanuel Carrère est à lire dans le numéro d'été de la revue 21. Merci, c'était l'Infomédia avec Céline Bait-Darcos.